macaroons.
Macaron?
Macaron.
Macaron.
Il est rond. Il est petit. Il est tout en couleurs. Il est facilement mangeable. Et puis, il est accessible à tous.
Le chou à la crème, évidemment, le Paris-Brest, le Saint-Honoré, la tarte au citron, tout ça, c'est des grands classiques. Hein.
On a la chance dans ce métier de n'avoir aucune limite à la création. C'est illimité, je veux dire, chaque jour on pourrait créer quelque chose.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Le générique vous aura-t-il mis l'eau à la bouche? Avez-vous déjà en tête ce gâteau, celui qui vous fait fondre à chaque fois, tellement bon qu'il est irrésistible, tellement bon qu'il est indéfinissable? Et c'est bien pour ça que nous faisons cette émission aujourd'hui. Bonjour à tous, nous avons avec nous Marion Tilloux. Bonjour Marion.
Bonjour Clémence.
Indéfinissable n'est pas Marion Tilloux, puisque vous avez créé, vous Marion, ce nouvel art qui s'appelle la pâtissologie. Un peu à l'image de comme on goûte le vin, comme on goûte l'huile d'olive, vous goûtez les pâtisseries.
Exactement. Je me suis dit qu'il fallait se prendre un peu de temps, se poser pour déguster la pâtisserie. Et j'ai décidé de créer un concept, une méthodologie finalement calquée sur ce qu'on peut faire avec le vin, l'œnologie. D'où la pâtissologie.
Pâtissologie, donc le terme est assez explicite en fait.
J'espère.
Pas complètement hasardeux non plus, votre carrière, je crois que vous avez été chimiste de formation.
Exactement.
Déjà une expérience en termes d'analyse, de dégustation, c'est important ça?
Oui, alors en fait c'est plus comme une approche, pas forcément que scientifique, mais d'avoir une méthodologie et de se dire à un moment, bah, j'ai envie de me poser, de comprendre un peu mieux, de aussi mettre en valeur le travail de celui ou de celle qui aura fait le gâteau et de le déguster. Je trouve parfois un peu frustrant, moi qui fais aussi de la pâtisserie, la vitesse à laquelle on peut déguster son dessert ou son gâteau. Je me dis, faisons un pas en arrière pour déguster. Et quand je vois parfois le temps que les gens prennent sur du vin, je me dis pourquoi pas sur la pâtisserie en fait, c'est un peu injuste tout ça. Donc voilà, et effectivement une approche un peu scientifique parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je suis de formation ingénieur chimiste, donc c'est là aussi le lien avec la pâtisserie.
Hein. Absolument. En plus, cette analyse vous permet aussi d'avoir une gourmandise assez économique en réalité.
Oui, tant
qu'à faire. Un gâteau dégusté avec attention. Ça prend du temps peut-être?
Effectivement, et aujourd'hui dans une période où on a complètement décrié le sucre, etc., essayer d'enlever du sucre des gâteaux, quand même à raison, hein, puisqu'il y avait beaucoup plus de sucre dans les recettes passées, mais pour des raisons de conservation. Mais moi je me dis que si on doit se faire plaisir, il faut vraiment être dans le moment du plaisir, et au moins voilà, on déguste, on a le temps de dire à son cerveau, je suis en train de manger un gâteau, il se passe ça. Et finalement, je n'ai plus faim et j'évite de me jeter sur des choses qui vont être industrielles, qui vont pas être bonnes. Et voilà, pour prendre le temps. Et je pense qu'au final, on va quand même moins en déguster ou moins se jeter sur le sucre.
C'est pas complètement innocent chez vous, le goût de la pâtisserie, il vous vient d'où?
Alors, moi, j'ai toujours aimé manger des gâteaux et j'ai toujours aimé en faire. Et petite, du coup, avec ma grand-mère, ben, de temps en temps, on faisait de la pâtisserie, des choses assez simples. Hein. Moi, je me rappelle des madeleines. Alors, bon, c'est un peu bateau, la madeleine, mais en l'occurrence, ma grand-mère faisait des madeleines.
Mais en même temps, votre grand-mère était en Lorraine.
Oui,
donc
oui,
on a une cohérence régionale, la madeleine.
Exactement, la madeleine de Commercy. Voilà. Alors, moi, je suis pas meusienne, je suis mosellane. Mais surtout, moi, ce qui me revient vraiment, c'est du jardin de mes grands-parents. Vers la fin du mois d'août, on a la Mirabelle. Ça veut dire les tartes à la mirabelle, les mirabelles au sirop, etc. Il n'y a rien à faire, moi, c'est toujours ça. Et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que quand je mange une mirabelle, bah, j'ai de nouveau 6 ans et je suis dans le jardin de mes grands-parents. J'ai toujours été bec sucré. Si je dois choisir entre une entrée et un dessert, mais je vais prendre un dessert, c'est évident.
Toujours dessert, il n'y a pas à hésiter. De toute façon, cette dent sucrée, elle est très largement partagée, c'est l'avantage aussi. Vous avez créé Honorez vos guides, ça s'appelle, donc des parcours dans Paris à la découverte de pâtisserie, mais aussi en apprentissage de cette pâtissologie. Je voudrais savoir quels sont déjà les premiers plus qu'apporte la pâtissologie quand on déguste.
C'est aussi de découvrir des choses, des sensations, des saveurs qui peuvent passer inaperçues si on engloutit, en fait. Et c'est aussi la première interface qu'on a avec la nourriture, c'est quand même le visuel. Et ça permet aussi de faire un choix éclairé dans ce qu'on va acheter, de regarder les couleurs, de regarder la brillance, de s'interroger aussi, en regardant les produits, sur la saisonnalité. Il y a ce premier filtre qui va permettre d'éviter de tomber finalement dans le piège de peut-être l'impulsion de « ah là là, ça a l'air trop bon », etc. Mais de se réinterroger sur est-ce que véritablement ce qu'on nous annonce via le visuel, est-ce que ça vaut la peine ? Donc ça, c'est le premier filtre. Et puis après, en prenant plus le temps, mais c'est comme pour le vin, hein, on va remuer son verre, sentir une deuxième fois. Là, ça va être pareil, on va vraiment essayer de déguster un peu plus lentement, de regarder les différentes couches, de sentir aussi. Ça va aussi, par exemple, un dessert sorti du frigo va pas exalter du tout les mêmes parfums qu'un gâteau qui aura pris le temps de se réchauffer un petit peu. Donc, on va, je pense, au fur et à mesure se dire, bah voilà, là, c'est quand même vraiment meilleur si c'est tempéré. Ça développe d'autres arômes. Et puis, en le mangeant, du coup, on va aussi se rendre compte de ce qu'apporte l'odorat dans la dégustation. Si vous faites le test très simplement de manger avec le nez bouché ou simplement se pincer le nez, c'est ce que font les enfants quand ils veulent pas manger quelque chose, hein, pour...
quand c'est pas bon.
Voilà. Et clairement, ça fonctionne. Si on se pince le nez quand on mange quelque chose, on n'a pas les mêmes sensations. Donc, il y a cette importance-là.
Mais voilà. Là, on est en train de faire un coup accéléré. Moi, j'ai envie qu'on prenne le temps, justement. On est d'accord qu'on réalise bien que de regarder son gâteau, sa pâtisserie, sa viennoiserie. On s'y dit, ah, ça a l'air bon. Pourquoi? Quel est le matériel quand on est pâtissologue et qu'on va aller goûter des pâtisseries?
Ah ben, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, hein, puisque de toute façon, la plupart des parcours de pâtissologie que je fais, c'est dans la rue. Donc juste soi, en fait, son palais, ses sens, une cuillère à la rigueur.
Tous ses sens en éveil et on va intensément goûter. Alors on va prendre et apprendre à goûter pour se mettre en jambes et en papilles. On pourrait commencer par un croissant.
Mais oui.
Incontournable, il est mondial, ce croissant. Et alors ce qui est intéressant dans ce croissant, c'est que nous allons d'abord mobiliser comme sens l'odorat.
Exactement.
Et alors comme là, en studio, nous avons des croissants, comment est-ce que vous décririez justement cette première approche et cette rencontre avec un croissant? Parce que vous j'ai apporté des croissants que vous n'avez jamais goûtés.
Non.
La boutique d'Isabelle, meilleur croissant 2018.
J'ai hâte de les déguster. Alors déjà, c'est vrai que sur la partie odorat, dans la pâtisserie, il y a un côté important, c'est aussi la fabrication et la cuisson. Et clairement, sur les viennoiseries, beaucoup de gens connaissent un peu l'astuce des boulangers-pâtissiers qui consiste à mettre l'extraction en fait, du labo, de le diriger vers la rue, s'il y a une école pas très loin, de le mettre là. Comme ça, quand les enfants sortent à 16h et qu'ils sentent en fait les parfums de la cuisson, tout de suite, on se dit oh, « mais j'ai envie d'y aller, en fait ». Et donc ça, c'est une astuce professionnelle qui se pratique beaucoup. Donc pour moi, il y a déjà la première partie de la fabrication. Et c'est pareil quand on fait chez soi ses viennoiseries ou des gâteaux. Instantanément, voilà, tout le monde débarque.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cuit, bientôt on va manger, c'est sympa. Et alors donc, ce croissant que j'ai sous les yeux, déjà, il a un très joli feuilletage. Donc là, bon, évidemment, mon premier prisme, c'est le visuel. Mais en fait, il s'accompagne très, très vite des odeurs de beurre, de levure, en fait, de levure ou de levain, hein, ça va dépendre de la façon dont il est fabriqué.
C'est ça, parce qu'il y a plusieurs familles de descriptions olfactives. On peut avoir des notes torréfiées, on peut avoir des notes fruitées, là, pas dans le croissant, mais beurré clairement, et la levure qui est...
Alors moi, c'est ce que j'ai appelé des notes de matière première, en fait, vraiment. Est-ce qu'on va retrouver le beurre? Est-ce que dans d'autres gâteaux, de la crème Et là, la levure, en l'occurrence, là, pour moi, c'est vraiment beurré. D'ailleurs, après, il suffit de regarder mes mains, c'est-à-dire, c'est bon, on a du beurre, il n'y a pas de souci. Donc vraiment des notes très laitières, on va dire. Et puis après, oui, des notes de torréfaction qui vont venir de la cuisson. Donc pour moi, c'est important qu'une viennoiserie soit bien cuite, même si à l'intérieur, après, quand on va la...
Allez-y. En plus, c'est intéressant parce que comme on est à la radio, on n'a pas l'avantage d'avoir le visuel. On mettra bien sûr sur la page du Goût du Monde une photo du croissant. Mais ça permet à chacun, en fait, si on ferme les yeux... on va avoir une impression de goûter. Enfin, on va essayer de donner cette impression. On est d'accord, on est dans le beurre, on est dans le...
Je vous en prie,
Marion.
Alors, je goûte.
Goûtez.
Allez, je goûte. Alors, c'est pas poli de parler la bouche pleine. Mais là, on a le droit, c'est pas grave. Donc, ce qui est très appréciable, donc là, on a plein de choses qui se passent, mais on a le beurre qui revient, un petit peu de sucre, mais pas tellement.
De douceur, parce que quand on dit sucre et qu'on n'est pas pâtissologue, tout de suite on voit les carrés ou le sucre en poudre.
Non.
Là,
non,
on est plutôt dans une douceur en réalité qui serait apportée par le beurre.
Oui, ça donne un peu un côté pain au lait dans la saveur. Donc c'est assez doux. On a pas mal de croustillants et c'est ce qu'on a pu entendre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le croissant, parce que c'est quand même l'emblème de notre viennoiserie, c'est qu'on a et du moelleux à l'intérieur, des belles alvéoles, et puis du croustillant à l'extérieur parce qu'il a été bien cuit. C'est un sujet difficile, le croissant, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels, finalement, qui en fournissent, qui font aussi des choses correctes. Hein. Mais le travail de tourage, le travail de la pâte, c'est quand même avant tout ça, le métier de boulanger et de pâtissier.
C'est un savoir-faire.
Et, voilà. Et la viennoiserie, c'est vraiment à l'interface entre la boulangerie et la pâtisserie. Quand j'ai passé mon CAP, là, j'ai pris la mesure de ce que c'était la viennoiserie et du travail qu'il y avait derrière. Et de la différence aussi que ça fait quand on fait du fait maison et quand c'est pas le cas.
D'ailleurs, Daniel Briang, qui est pâtissier à Brasilia, au Brésil, nous avait expliqué très clairement qu'en fait, au Brésil, ne manquaient pas les matières premières. Il y avait du beurre, il y avait tout ce qu'il faut pour faire des croissants. Mais ce tour de main, ce savoir-faire, exactement, fait vraiment toute la différence, comme vous expliquez. Alors, on a quand même rentré directement dans le deuxième sens qui est à l'appel dans notre dégustation, à savoir l'odorat, mais surtout l'ouïe.
Oui. Nous, c'est
notre sens de référence, l'ouïe, le croustillant, le feuilleté. Comment est-ce qu'on peut vérifier, bon, on goûte, mais comment est-ce qu'on vérifie la qualité d'un feuilletage?
Alors, on le voit déjà au visuel, à la façon dont les feuillets vont être apparents. Donc, un croissant, c'est une pâte levée feuilletée, c'est encore plus compliqué qu'une pâte feuilletée. Mais on a toujours ce principe d'alterner des couches de pâte et des couches de beurre, qui ensuite, en fait, le beurre va fondre à la cuisson. Donc là, exprimer toutes ces notes. Et il va y avoir une sorte d'étanchéité au niveau des feuillets de pâte. Et donc, quand l'humidité va s'échapper à la cuisson, c'est ça qui va faire lever, en fait. Voilà. Donc, on a à la fois ce phénomène physique de l'eau qui s'évapore, mais qui vient taper contre quelque chose qui est étanche. Donc, ça vient faire lever le croissant. Et en même temps, on a de la levure ou du levain qui vont donner aussi ces notes et qui vont permettre aussi de développer les feuillets et les alvéoles à l'intérieur. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des feuillets apparents sur la surface, qui soient bien dorés, pas en sous-cuisson. Et puis après, quand on le découpe, et ben là, normalement, on doit avoir vraiment de belles alvéoles. Il ne doit pas être brioché. Quand on le tourne mal, et je peux vous dire que j'en ai fait quelques-uns des mauvais, on a des toutes petites alvéoles, et du coup, ça ressemble plus à une brioche.
D'accord.
Et donc là, on n'est plus dans le croissant. Ça D'accord. peut être très bon aussi, hein. Mais on n'est plus dans le croissant.
On n'est plus dans le croissant. Ouais. En plus, je suis difficile avec vous, puisque j'ai aussi apporté un autre emblème, évidemment, de la pâte feuilletée, qui est
le millefeuille. Le millefeuille, qui en réalité n'a pas 1000 feuilles, mais pas loin de 800, je crois.
Cependant, je connais des pâtissières qui font des millefeuilles. Il y a notamment un millefeuille très connu, mais est-ce un millefeuille? Celui composé avec la pâte filo.
Ah oui.
Et là, je vous parle de baklava. Qui est aussi une forme de millefeuille. Je vous propose d'écouter le chant du baklava.
Donc en fait, on met du sirop qu'on a préparé en amont. Donc c'est toujours gâteau chaud, sirop froid. Là, c'est à base d'eau, de sucre et de citron.
Choc thermique.
Oui.
Baklava, croissant, est-ce qu'on est dans les mêmes familles ou pas du tout?
On est dans le feuilleté et dans le croustillant.
Le beurre aussi.
Voilà, on est dans le beurre aussi. Donc oui, de toute façon, c'est un peu les codes de la pâtisserie de manière générale. On n'a pas les fruits, on n'a pas le chocolat. Donc oui, on est vraiment sur quelque chose qui est à base de pâte et de croustillant. Et en fait, c'est ce que notre cerveau attend. Hein. C'est ce que j'essaye d'expliquer avec la pâtissologie, la méthodologie. J'ai essayé de chercher aussi pourquoi on attendait ça. Et ça vient vraiment de notre cerveau primitif qui, en gros, nous dit si ça croustille, c'est que c'est frais. Donc là, on a un peu détourné le truc avec le croustillant des gâteaux, parce que c'est pas du tout quelque chose qui pousse sur un arbre. Mais c'est ce qui se passe aussi avec la réaction de Maillard quand on cuit de la viande. Ça va devenir croustillant, et du coup, c'est plus digeste. Et donc, notre cerveau nous dit, ben, il faut y aller, quoi. On se laisse un peu aussi mener par notre cerveau.
Ça participe totalement. Mm. Il faut que ça croustille.
Oui.
D'ailleurs, si c'est un croissant qui ne croustille pas, tout de suite, on se dit, il y a un problème.
Et encore plus sur le millefeuille.
Ouais. Alors vraiment, le millefeuille, est-ce que on va essayer quand même?
Ah oui, oui. Hein,
je vous propose peut-être de, on a apporté des cuillères, de plonger, enfin non, de craquer le millefeuille.
Ah, la découpe du millefeuille, c'est toujours un grand moment, hein. Mais un millefeuille, c'est fait pour être détruit, hein, finalement. Alors, Je sais jamais comment m'y prendre. Est-ce qu'on y va au couteau, pas au couteau?
Bah, idéalement, ça serait voilà. Presque plus simple. Là, je Mais me complique la vie.
On va y arriver. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Christophe Michalak, au Plaza, avait décidé de mettre le millefeuille dans l'autre sens, sur le côté, pour faciliter aussi un peu la découpe. Parce que là, c'est vrai que quand on vient appuyer au milieu de cette grande plaque de feuilletage...
Donc, on rappelle le millefeuille, on est d'accord. Nous avons donc des plaques de feuilles...
De pâte feuilletée, oui.
...qui entourent, qui viennent épouser...
Encadrer.
Voilà. Une couche de crème.
Voilà, de la crème pâtissière.
De la crème pâtissière.
Si on reprend les codes. Alors, celui-ci que j'ai sur les yeux est un peu différent... parce qu'il a un dessus en sucre glace, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui aiment le millefeuille aussi pour le code du fondant, en fait, sur le dessus, avec les traits de chocolat noir, vous voyez, l'espèce de dessin très classique. Alors aujourd'hui, les pâtissiers l'ont quand même revisité. Alors le fondant, en même temps, c'est un peu aussi l'enfance, et c'est très sucré, donc ça apporte quelque chose, mais ça apporte un peu du sucre...
comme du sucre glace, en fait, sur le feuilleté. Tout le monde va bien.
Alors du coup, je craque le millefeuille. Craquer,
Marion, craquer.
Voilà, donc là, j'en suis qu'à la première couche de feuilletage et il y en a trois.
Mais d'ailleurs, il ne craque pas beaucoup, ce millefeuille.
Un petit peu, quand même.
Un petit peu.
Si, si.
En même temps...
En fait, le bruit est un peu amorti par la crème. En fait, elle joue son rôle.
Il y a un gâteau dont vous parlez qui est un peu la reine du feuilleté, la galette des rois.
La galette, oui.
Qui nous permet de commencer une année. Mm. Pourquoi est-ce qu'elle est si délicieuse, cette galette des rois? C'est un feuilletage ultime, pourrait dire?
Bah déjà, c'est le feuilletage inversé, où, pour la faire simple, on met de la pâte dans du beurre et non pas du beurre dans de la pâte. Donc je sais, comme ça peut faire un peu peur.
Non, pas du
mais...
tout.
En réalité, c'est très faisable. Hein. Et c'est vrai que c'est une pâte feuilletée qui va beaucoup plus se développer, être beaucoup plus croustillante. Et la galette des rois, en fait, c'est vraiment un gâteau très important pour les pâtissiers et les boulangers. C'est vraiment une période de l'année où beaucoup de gens viennent goûter des galettes. Donc c'est aussi commercialement un moment très important et chacun y va de sa nouvelle galette. Et pour moi, c'est une pâtisserie, quand on réfléchissait à quel sens était le plus important pour parler de la galette des rois, on s'est rendu compte que en fait, les cinq étaient vraiment primordiaux. C'est-à-dire que si elle n'est pas belle, ça ne marche pas. Si elle ne fait pas de bruit... Au moment où on la découpe, où il y a le plus jeune qui est sous la table, en train de dire c'est pour un tel et un tel, cette part. Si on n'a pas le bruit, il manque quelque chose. L'odeur, ça fait partie des gâteaux qu'on va manger chaud, tiède. Donc là, c'est incroyable. La texture, il faut la pâte et il faut qu'elle soit bien garnie. Parce que les galettes des rois dans lesquelles il y a 3 cm d'air au-dessus d'espace, c'est pas terrible.
C'est décevant.
Et puis le goût, en fait, il est important, comme dans toutes les pâtisseries. Mais il faut trouver le bon équilibre. Il faut que ce soit pas trop beurré, il faut que ça sente l'amande, mais pas l'amande amère, beaucoup trop. Et puis après, c'est aussi l'occasion de faire plein de choses. Il y a des pâtissiers qui le font à la noisette.
Oui, on peut complètement réinventer.
Le citron, enfin, il y a beaucoup de choses. Donc oui, c'est pour ça que c'est la dernière de l'ouvrage, parce que vraiment, elle synthétise, elle résume tout.
Honey pie, voilà. Pendant que vous goûtez le millefeuille.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the me weak in the knee. Oh honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. So won't you please come home, come, come. come back to me, honey pie.
Honey Pie, les Beatles sur RFI, du miel, de l'amour, dans le goût du monde. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes dans les gâteaux, les effluves de croissants, le craquant des millefeuilles. Il est très bon apparemment, Marie Antillou.
Oui, il est délicieux, il a des belles notes de vanille. Et en fin de bouche, on a le feuilletage qui reste bien présent, et qui est bien torréfié, du coup, qui est bien cuit. Et ça, c'est important, je déteste les pâtes pas cuites. En
fait. Donc ça, c'est très bon. Donc Marie Antillou, pâtissologue, qui vous forme, nous forme à la pâtissologie, pour que nous puissions goûter, éveiller nos sens, goûter mieux. Elle écrit un livre qui s'appelle « Comment j'ai dégusté mon gâteau », c'est publié chez First, et organise également des découvertes de Paris, en goûtant Paris, par ses pâtisseries. C'est une bonne définition, ça?
Oui, exactement. On se balade pendant 2 heures.
On se balade.
Et en même temps, on mange des gâteaux. On marche un petit peu pour éliminer entre chaque
pâtisserie. Mais c'est, du coup, c'est une belle découverte de la capitale. L'odorat, on l'a mobilisé. Louis, on l'a mobilisé. Ce sont des sens primordiaux. Mm-hmm. On a vu que c'était un peu un chouette couple que Louis et l'odorat. Donc maintenant, évidemment, on en a parlé un petit peu. La vue.
Oui.
Parce qu'on premier rapport avec le gâteau. Donc là, vous n'êtes plus dans un studio de radio, mais vous êtes chez vous, il va falloir imaginer. Quel serait le gâteau de la vue?
C'est vrai que le macaron est vraiment emblématique à bien des égards de la pâtisserie française. Et j'ai choisi d'en parler sur le côté couleur, en fait, qui est aussi une des choses qu'on va regarder sur un gâteau. Et on a une telle diversité, en fait, avec les macarons. C'est vraiment aussi un symbole de Paris, de la pâtisserie française. Des macarons, il y en a un peu dans toutes les régions. Mais celui, le parisien, il a plein de choses, j'en prends dans mes mains.
Oui, donc vanille celui-ci.
Voilà. Et en fait, le macaron, c'est vraiment un petit bijou, en fait. Déjà, c'est zéro culpabilité parce que c'est tout petit. On se dit, on peut y aller tranquillement.
C'est une bouchée.
Voilà, c'est une bouchée, c'est rien. Alors, si possible, on évite de le manger quand même en une seule bouchée. On le déguste.
Est-ce qu'il croque bien, ce macaron?
Voilà, alors, Marion. Je vais vous le faire croquer bientôt. Esthétiquement, en fait, on va rechercher quelques points sur le macaron, que la coque soit bien lisse, que la collerette soit bien développée, qu'on ait une garniture qui soit équilibrée.
Le principe du macaron à la base, déjà, c'est oui. Une meringue qu'on dit italienne. Alors ça, on rentre
dans
deux,
des techniques. Ouais. Il y a italienne ou française.
Moi,
je le préfère à la meringue italienne parce qu'il va y avoir plus de texture. Il sera moins croquant, mais il sera plus équilibré, je trouve. Et la garniture va plus s'imprégner dans la coque de macaron.
Donc deux coques avec
voilà,
au milieu.
Coques,
donc
meringue et poudre d'amande. C'est ça aussi qui fait le goût du macaron. Et puis, c'est un peu magique quand on fait des macarons et qu'on... Alors, on peut les rater souvent, mais quand on les réussit, que tout d'un coup, on voit cette coque qui commence à se lever dans le four et la petite collerette qui se forme, là, on se dit, ça y est, il faut pas qu'il retombe. Mais on a vraiment quelque chose de très esthétique et il faut que ce soit gourmand, donc il faut qu'on voit vraiment la garniture. Donc, celui que j'ai entre les mains a l'air assez gourmand.
Ben, il a été réinterprété, décliné à l'infini. On a un très, très bon macaron, d'ailleurs, qui lie la passion et le chocolat de Pierre Hermé. Je le cite parce qu'on est pour le coup...
Le Mogador,
on est pour le coup dans des saveurs qui sont plus originales. Je vous laisse croquer.
Alors...
C'est très radiophonique, la pâtisserie, moi, je trouve. Il y a un autre gâteau aussi qui est extrêmement visuel, c'est la religieuse, peut-être.
La religieuse, c'est une petite ballerine, en fait. Ouais. Hein, Alors moi, je milite pour la religieuse versus l'éclair. Alors, je sais que les éclairs, c'est beaucoup plus pratique pour les pâtissiers à fabriquer, et puis c'est plus facile
donc,
à manger.
Donc, l'éclair est l'angeligne, la religieuse,
voilà,
on a vraiment
deux choux. Voilà.
Je vous propose d'écouter Pierre Liénard, c'est le directeur de la pâtisserie Storer à Paris.
Ah.
Et Storer, c'est la pâtisserie.
Vous dites ça à une Lorraine.
La religieuse, à partir du XVIIIe siècle, lorsqu'elle a été créée, elle n'était pas simplement qu'une grosse boule et une petite boule posée dessus, comme on le connaît aujourd'hui au XXIe siècle. La religieuse, son nom vient du fait que ce gâteau ressemblait aux robes des religieuses. C'est un montage fait avec des éclairs café et chocolat, en forme de pyramide. Et l'éclair, pour pouvoir faire ce montage de cette religieuse, a d'un côté une forme arrondie à la base, et à l'autre bout, nous le faisons un peu plus pointu pour pouvoir monter cette pyramide et arriver à avoir quelque chose de bien régulier. Et donc ça, c'est un gâteau qui est très connu chez Storer pour les fêtes, les anniversaires, même les mariages. Aujourd'hui, on vend même plus de religieuses que de pièces montées en choux caramélisés. Au sommet, il y a la grosse boule et la petite boule qui représentaient le corps de la religieuse et sa tête. C'est une crème simplement que l'on met à la poche pour pouvoir faire ce décor entre chaque éclair. Et donc ces éclairs sont soit café chocolat ou vanille et framboise pour un mariage.
Bon, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il parle de la religieuse qui est à la bah, puis c'est l'éclair, puis c'est la pyramide d'éclair que propose cette pâtisserie depuis toujours. Il y a des générations de familles qui vont chercher cette pyramide d'éclair pour célébrer des mariages. C'est savoureux aussi, visuellement, à tous les niveaux aussi, ça sollicite.
Ah oui. C'est exceptionnel hein, ce qu'ils réalisent dans cette pâtisserie. C'est vrai que moi, je pense plus à la version, la petite version avec le gros chou, le petit chou. Mais c'est vrai que là, ce montage, c'est aussi un symbole de la pâtisserie française. Oui.
Chou. En fait, je suis presque impatiente d'entendre parler de mon gâteau préféré, qui rassemble tous les sens, le Saint-Honoré.
Ah, c'est votre...
Ah, c'est mon préféré.
C'est votre préféré.
Alors, le Saint-Honoré, on a du feuilleté, de la crème, des choux.
Du caramel. On a deux sortes de crème.
Crème
chibousse et crème montée.
Et visuellement, c'est un gâteau emblématique.
Oui. Exactement. Je mets ça sur le même niveau qu'une pièce montée pour un mariage. Je me demande d'ailleurs pourquoi on ne fait pas plus de Saint-Honoré pour les mariages
oui,
que finalement des croques en bouche où on n'aurait que du chou, de la crème pâtissière et de la nougatine et du caramel, alors que là, on peut avoir du feuilletage. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant finalement qu'une pièce montée. Et moi, je l'imagine vraiment comme ça. Mais effectivement, on voit maintenant des grands pâtissiers qui font aussi des très, très grands Saint-Honoré pour le mariage. Donc,
alors, vous avez fait un geste intéressant, ouais. C'est-à-dire un rond. Ouais. Il est forcément rond, le Saint-Honoré, ou pas?
À la base, il est rond, mais il y a des pâtissiers illustres qui l'ont revisité en carré. Du coup, je pense à Philippe Conticini, à la pâtisserie des rêves, qui a vraiment permis aussi de remettre au goût du jour ce type de pâtisserie, comme également le Paris-Brest, on l'a toujours dans du chou. Donc, c'est pas forcément rond. Et d'ailleurs, dans le livre, on le présente un peu comme un escargot. Donc en fait, on garde le code du rond, mais en le revisitant un petit peu, mais toujours voilà, la pâte feuilletée, la pâte à choux. Donc c'est quand même un gros boulot, hein, le Saint-Honoré.
Énorme comme travail, oui, vu tous les éléments dont il est composé. Et en termes de dégustation, vous, la pastisologue, c'est intéressant.
Oui.
Ou c'est un peu un Everest que de se lancer sur un Saint-Honoré.
C'est toujours intéressant de déguster un gâteau, en fait. Mais oui, en fait, c'est intéressant parce qu'on a tellement de diversité et tellement de niveaux de dégustation dans le Saint-Honoré. On peut rajouter des choses, le pâtissier peut s'amuser aussi à rajouter des fruits. Donc là, en l'occurrence, on a rajouté des marrons, on a rajouté des clémentines, on a rajouté du miel. En fait, on peut vraiment s'amuser et faire de ce monument quelque chose de très actuel. Donc, et après, on va avoir plein de niveaux dégustation entre la pâte feuilletée, entre le chou, entre cette crème. Et ça peut rester très léger, hein, faire une petite portion qui soit avec vraiment tous les niveaux. Donc ouais, le Saint-Honoré, je suis assez d'accord.
Très, très française, en tout cas, cette pâtisserie. Ouais, mais qui voyage, cela dit. On a parlé du croissant au Brésil.
Je disais pas français, le croissant, à la base.
Et c'est pas français.
C'est autrichien.
Bon, on l'aura dit.
Ouais, voilà. Bon, de temps en temps, il faut céder des choses à d'autres pays.
Absolument. Je vous propose justement d'aller à la rencontre du chef Anto. Bonjour, chef Anto.
Oui, bonjour Clémence, bonjour Marion.
Bonjour Anto, enchantée.
Enchantée.
Et donc, chef Anto, qu'on connaît bien sur RFI, chef originaire du Gabon, que les auditeurs de RFI connaissent bien, dont on a souvent goûté la cuisine et dont on apprécie aussi le talent de conteuse. L'Afrique et la pâtisserie, Anto, est-ce que c'est une histoire qui se raconte?
Oui, alors il faut savoir qu'il y a trois types d'Afrique concernant la pâtisserie. On a l'Afrique du Nord qui a différents petits gâteaux secs à base d'amandes, de miel, de pistaches. On va avoir les pays qui sont restés longtemps colonisés comme l'Afrique du Sud, donc qui ont certaines pâtisseries mais qui sont plutôt d'origine britannique. Et après, on va avoir tous ces pays-là d'Afrique subsaharienne où la pâtisserie, culturellement, enfin, ne fait pas partie du patrimoine culinaire de ces pays, en fait. Donc, aujourd'hui, avec la diaspora, on essaye, hein, en tant que professionnel, de créer des desserts avec nos produits locaux en utilisant les techniques de pâtisserie de base française.
Vous avez notamment fait une tatin à l'ananas.
Exactement, tatin à l'ananas ou à la mangue, donc partir sur le même principe que la tarte tatin de la base de pommes, parce que les ananas ou les mangues, ce sont des fruits un peu plus communs. Ou alors, lorsqu'on va dans des pâtisseries un peu plus poussées, c'est de faire un Paris-Dakar au lieu d'un Paris-Brest. Et là, on part sur un chou. Au lieu d'avoir une crème pralinée noisette, c'est plutôt un praliné cacahuète avec un caramel aussi à la pâte d'arachide.
Mais vous allez conserver cette même forme de roux qui est celle du Paris-Brest original ou vous allez changer la forme?
Ça dépend. Quand c'est pour plusieurs personnes, je fais en forme de roue, parce que le Paris-Dakar, c'est une course de voiture et la roue rappelle le volant de la voiture. comme elle pouvait rappeler dans le Paris-Brest la route vélo. Et quand je fais des individuels, des fois je les fais en forme plutôt allongée, comme un éclair. Donc ça va être pour rappeler un peu la pirogue qu'on retrouve au Sénégal, parce que pendant longtemps, la Casamance a été le premier producteur d'arachides en Afrique subsaharienne.
C'est pas très commun d'ailleurs, Marion Tillou, l'arachide. La cacahuète dans les pâtisseries.
Ça vient de plus en plus, on en rencontre maintenant par exemple dans les babkas, donc oui. Cette brioche roulée de l'Europe de l'Est au chocolat, et maintenant on commence aussi à y mettre voilà du beurre de cacahuète ou des cacahuètes torréfiées. J'ai aussi goûté un éclair chocolat au lait cacahuète qui marche très bien. Donc c'est vrai qu'avec l'essor du praliné, il y a beaucoup de gens qui essayent des pralinés avec d'autres fruits secs. Et donc, la cacahuète fonctionne bien, le sésame fonctionne très bien. Donc, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à cet apport par rapport à la pâtisserie en Afrique. Mais c'est une super bonne idée. J'aimerais trop goûter ce Paris-Dakar.
On se fera un repas dégustation avec la chef Anto. Et chef Anto, vous faites aussi une mousse. Parce qu'on n'a pas parlé de la mousse en termes de son. Pourtant, quand on plonge une cuillère dans une mousse, il y a un crissant terrible. Et vous faites, vous, une mousse de baobab. On est dans de la pâtisserie aussi, dans les desserts.
Ce qui est très intéressant en fait avec le baobab, alors le fruit qu'on appelle pain de singe ou bouille suivant le pays où on se trouve, la pulpe de ce fruit est très laiteuse et c'est très acidulé. Donc ça va très bien avec tous les desserts qui sont à base de lait ou qui ont besoin d'un peu d'acidité comme ça. Et c'est très léger, c'est, donc dans une mousse, ça, c'est vraiment une texture aérienne, ou même dans une crème brûlée, ça fonctionne aussi très bien. Après, c'est une question de dosage, parce que comme c'est un peu acide, donc ça peut très vite des grumeaux, en fait, suivant la façon dont on prépare. C'est vrai que, alors moi personnellement, et ça c'est parce que j'ai vécu longtemps au Gabon avant d'arriver en France, je peux passer devant une pâtisserie et ça ne me dit rien du tout. Parce que j'ai pas été élevée à manger des pâtisseries. Je veux dire, on mangeait un gâteau quand c'était un anniversaire, on avait un truc à fêter. Et c'était pas culturellement le truc de s'asseoir dans un salon de thé pour manger une pâtisserie. En revanche, on est beaucoup plus dans les gâteaux de voyage, donc des cakes, ce genre de choses qu'on peut même retrouver en street food sous différentes formes, des biscuits secs. Ça, on en consomme plus.
C'est le gâteau d'anniversaire. On va prendre un gâteau vraiment pour célébrer. Vous disiez culturellement, ce sera davantage. Même les gros gâteaux qu'on voit et ou les cupcakes
oui,
surmontés de crème.
Pour célébrer, pour les mariages. Alors aujourd'hui, il y a les cupcakes, mais même quand on achète des cupcakes, c'est pour célébrer quelque chose. Rarement quelqu'un qui va aller dans une boutique juste pour le plaisir.
Mais on va compter sur vos Paris-Dakar, Anto Cocagne.
En plus, en ce moment, comme c'est l'année de l'Afrique à Paris, c'est l'un des desserts que l'on fait. Lorsque je travaille avec les lycées hôteliers sur Paris ou en région parisienne, je le donnerai avec plaisir.
Merci Anto. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit fou. Et du soir au matin, dans son petit magasin, là, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses deux petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra, d'un petit coup d'œil oblique, vite il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi, mademoiselle, un cornet de marron. Et d'un petit air malin, il en prit deux dans sa main. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Je vous offre, dit-il, mon coco, des marrons et mon cœur chaud. Cœur chaud, dit-elle, vous l'avez, et les marrons sont glacés. Il s'assit à une table pour manger un petit chou. Elle se montra aimable, elle offrit un peu de tout, puis insista coquette pour qu'il prît du nougat. Mais lui, hochant la tête, tristement répliqua, à mon âge, voyez-vous, je prends plus que du caramel mou. Elle vendait des petits gâteaux dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. Le vieux lui faisait les yeux blancs, il saussait en tremblotant. Dans un verre d'eau étorgea une pauvre petite langue de chat. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensait énervée, il ne partira pas, ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol. Elle lui dit en colère, mangez ses croquignoles. Il répond d'un ton sec, je n'aime pas les gâteaux secs. Et le
vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien cuit de faux dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle lui dit d'un petit air doux, bah mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux, ça que mangez dans la mer avec.
Le Paris-Brest, nous l'avons ici en studio avec Marion Tillou, le Paris-Brest qui semblait un peu traditionnel au goût de Marion.
Oui, alors je dis traditionnel parce que déjà dans le visuel, on a des amandes effilées sur le dessus, torréfiées. On a du sucre glace, donc c'est vrai que c'est des codes un peu plus anciens que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et avant de le goûter, j'ai commencé à... Alors, il ressemble un peu à comme un éclair qui serait entrouvert en portefeuille et dans lequel on aurait garni de crème Paris-Brest. Et donc, j'ai soulevé délicatement pour voir s'il y avait du praliné caché dedans. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pâtissiers, depuis quelques années, et notamment sous le mouvement de Philippe Conticini et de la pâtisserie des rêves, ont rajouté du praliné pur.
Et
dans,
un peu de sel également.
Voilà, une pointe de sel ou alors un praliné un peu plus rustique, un peu plus granuleux pour ajouter de la texture et puis un goût qui va un peu trancher. Et c'est vrai que la petite note de sel, elle a la vertu de venir un peu remettre à zéro les papilles et de redonner du relief. Et donc, c'est vrai qu'en regardant, je me suis dit, il est un peu tradit, il n'y a pas de praliné. Mais je vais goûter. Hein.
On écoutait les petits gâteaux de Barbara. Vous êtes sur RFI, je vous laisse donner le nom de l'émission, Marion Tillou. Vous êtes
le goût
sur
du monde.
Le goût du monde, bien sûr, le goût des gâteaux, ou comment justement goûter ces gâteaux, avec Marion Tillou, qui est fondatrice de Honorez vos guides, qui propose donc des balades de découverte de pâtisseries et gustatives, et auteur du livre « Comment j'ai goûté mon gâteau » chez First. Je vous propose maintenant, chère Marion, d'aborder le sens dont on n'a pas vraiment clairement parlé depuis le début de cette émission, et pourtant...
Le plus important, le goût.
Le
Il
goût.
Faut que ce soit bon.
Le goût. Alors, qu'est-ce qui fait le goût, justement? On parle du goût comme une évidence, à savoir, ça va être les saveurs, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, mais il se construit aussi la manière dont on goûte le goût.
Oui, oui, en réalité, le goût, c'est une construction, enfin, les saveurs, c'est une construction de notre cerveau. Nos papilles, elles vont pouvoir identifier 5 saveurs, hein, le sucré, le salé, l'amer, l'acide et le fameux umami, la 5e saveur. Et ensuite, c'est vraiment notre cerveau qui va construire à partir de ces signaux qui viennent de nos papilles, qui va construire, ça c'est du praliné, ça c'est de la cerise,
j'aime,
c'est du...
Oh là là,
ça j'aime, ça j'aime pas.
Fraise, oh là, le citron, formidable.
Exactement.
D'ailleurs, il y a un gâteau un peu idéal pour goûter, c'est la tarte au citron.
Oui. La tarte au citron, elle va avoir beaucoup de relief et en même temps beaucoup d'équilibre. Et c'est important d'avoir à la fois de l'acidité et du sucre. Il va venir contrebalancer tout ça. Donc après, il y a des gens qui aiment la tarte au citron bien sucrée, bien beurrée. Parce qu'il y a aussi du beurre dans cette fameuse crème citron.
Qui est internationale parce qu'elle est anglaise à l'origine.
Exactement. Et puis, c'est vraiment une pâtisserie qui est à l'interface de beaucoup de cultures. Parce qu'également aux États-Unis, il y avait la key lime pie, donc à partir de citron vert, qui était mangée par les marins pour combattre le scorbut, sans vraiment savoir que c'était en fait la vitamine C qui était dans le citron qui allait les protéger. Et puis, on a également cette meringue qui vient de Suisse. Donc c'est
une meringue qui, pour le coup, n'est pas craquante, mais qui est fondante.
Fondante, mais aussi un peu craquante, parce qu'on va la caraméliser au chalumeau, quand même, pour parfaire tout ça. Donc après, c'est vraiment, pour les pâtissiers, la tarte au citron, il y a tellement de possibilités. On peut revisiter la pâte, on peut faire... dans l'ouvrage, on en a une au sarrasin.
Ah, au sarrasin.
Et au miel. La meringue, on la monte avec du miel et du jus de citron. Donc il y a beaucoup de possibilités. On peut aussi décider de faire des petits bâtonnets de meringue, les faire sécher, de les mettre dessus pour faire beaucoup plus de croustillants. Enfin, voilà, la tarte au citron, c'est pas pour rien que c'est le dessert préféré des Français, quand même.
Il y a aussi des gâteaux surprises dont vous parlez, dont la vue ne dit pas tout ce que l'on pourra goûter. La surprise, c'est l'opéra. Quelqu'un qui aime beaucoup les surprises aussi, et surtout le petit croustillant, craquante, cracounette, totalement délicieuse, qui est Philippe Conticini, pâtissier iconique.
J'ai structuré ce gâteau avec un biscuit, un cracounet, parce que j'aime bien qu'il cracouille, j'aime pas ce qu'il croustille, j'aime bien les gros câlins. Donc, de façon à ce que la manière dont j'incorpore la vanille, la manière dont je travaille, dont j'émulsionne tout ce que je fais, que ce soit le biscuit, la crème mousseuse, pour que tout ça condimente la vanille. D'abord, quand on le coupe, on a l'impression que c'est mou. Et quand on l'a dans la bouche, on entend ça cracouille, comme si on croquait des petites graines de vanille. Donc la texture n'est que là, en fait. C'est vraiment une structure dense et tellement fondante en même temps. Et j'ai voulu recréer le goût de la gousse de vanille. Et puis surtout, il est tout blanc. Donc il n'est pas impressionnant visuellement. Par contre, quand on l'ouvre en deux, quand on le coupe, c'est tout noir à l'intérieur. Mais noir ébène, comme la gousse de vanille. Et de ce que j'entends à droite, à gauche, à l'est, au nord ou au sud... ou à l'Ouest, ça touche profondément les gens. Voilà. Donc je suis content.
Il est content, Philippe Contissini, et nous aussi, parce qu'il nous offre des gâteaux formidables. Donc celui-ci était un gâteau à la vanille, une création. Vous l'avez goûté, Marion?
Non, celui-là, je ne l'ai pas goûté. J'ai goûté beaucoup de choses à la vanille, mais pas celui-là. Mais la subtilité de la saveur de la vanille, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Il y a des vanilles de vraiment beaucoup de pays qui apportent chacune quelque chose de différent. Et pour parler d'un autre grand chef, c'est par exemple Pierre Armé qui, lui, a créé son goût de vanille en associant Mexique, Madagascar et Tahiti.
On est dans un voyage aussi dans ces gâteaux,
oui,
complètement,
oui.
Avec les matières premières.
Avec des belles matières premières, c'est la même chose aussi avec le chocolat. Hein. On peut trouver tellement, là on parlait du goût, on a tellement de notes qui sont cachées dans un chocolat. Parce que la première impression, ça va être, oui, le goût du chocolat. Mais derrière, quand on prend le temps de bien le chauffer, c'est aussi une des propriétés du chocolat, c'est qu'il va fondre à la température de notre bouche. Et là, on va retrouver des notes épicées, des notes fruitées. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont cachées et qui vont permettre aussi que ça s'harmonise bien avec d'autres accords. On parlait tout à l'heure du Mogador avec le fruit de la passion. C'est aussi un certain chocolat au lait avec un peu de gras quand même en bouche qui va venir contrebalancer l'acidité. Et c'est là que ça fonctionne, quoi. Donc les accords emblématiques.
Vous en proposez un d'ailleurs, marron.
Marron agrume, que j'ai nommé Calisté en hommage à la Corse, puisque c'est un terroir où on va retrouver à la fois des châtaignes et des agrumes. Voilà, ça fait partie, il y a des accords comme ça qui restent en tête. Hein. Avec le marron, on peut aussi associer le cassis, par exemple, ça marche très bien. Ou la rose et le litchi, voilà.
Autre macaron emblématique.
Voilà, exactement. Et ça vraiment, il n'y a pas de limite, en fait, à l'imagination et l'accord entre les différentes saveurs.
Quel est le gâteau que vous avez goûté, dégusté, qui vous a surpris?
Des choses avec du matcha.
Donc ça, on est dans du thé.
Voilà, avec le thé vert, le matcha. J'ai parfois été surprise par le côté très vert, en fait, très végétal. Et ça, j'aime beaucoup. Et dans la même lignée des choses végétales, j'ai pu goûter une plante qui s'appelle le mélilo, et qu'on a d'ailleurs choisi de mettre, d'associer dans un fraisier, qui va avoir des notes très végétales, mais en même temps des notes de vanille, de fève tonka. Et oui, j'étais extrêmement surprise, en fait, de retrouver tout ça dans une herbe qu'on peut regarder, on se dit, mais voilà, on dirait un peu du foin. C'est un peu banal, on va dire. Mais en vérité, il y a énormément de saveurs derrière qui se développent. Donc, j'aime bien les saveurs végétales. C'est des saveurs que je découvre de plus en plus.
Est-ce qu'elles sont nouvelles, justement, ces saveurs végétales? Est-ce que la pâtisserie est en train de changer en termes de préoccupations qu'elle intègre maintenant? Vous avez le sentiment?
Sur la composition, on voit beaucoup de pâtissiers de renom qui essayent déjà de diminuer la part de sucre, qui vont utiliser des matières premières différentes. On a aussi des pâtissiers comme, je pense à Rodolphe Landemaine, qui a créé des pâtisseries 100% végétales. Donc, il y a aussi une conscience de ce côté-là. Et puis après, de manière un peu plus large, et ça regroupe et la pâtisserie et la boulangerie, tout ce qui est farine de blés anciens, avec moins de gluten, ou en tout cas un gluten qui va être moins perturbant, avec des temps de pousse qui vont être différents. Donc oui, il y a quand même un vrai changement, et c'est aussi ce que les gens attendent. Alors, faut toujours rester, pour moi, dans le plaisir, et pas se priver de tout. Mais par contre, on peut clairement limiter la quantité de sucre dans les gâteaux, puisque il y a certaines recettes de Le Nôtre qui étaient très chargées en sucre pour des questions de conservation. C'est comme l'alcool aussi dans les pâtisseries, il y avait aussi cette intention là. Donc oui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se créer, et puis des nouveaux des chefs pâtissiers qui vont aller chercher des nouveaux produits, qui vont tester des nouveaux fruits. Et on parlait tout à l'heure avec le chef Anto, je pense aussi par exemple à l'hibiscus qu'on trouve de plus en plus dans certaines pâtisseries. Et ça, c'est très intéressant, quoi, de découvrir ça.
Ouais, c'est assez magique.
Ouais, complètement.
S'il y avait une pâtisserie, alors donc vous organisez des parcours dans Paris. Comment ça se passe?
Eh bien, on se donne rendez-vous.
Comment vous choisissez vos parcours?
Alors, c'est vraiment une question de coup de cœur gustatif. C'est-à-dire que d'abord, je vais goûter les gâteaux. Et ensuite, j'essaye de construire un parcours autour de ça. Donc, si possible, j'essaye du coup de trouver 3 pâtisseries et 3 pâtissiers. Il y a aussi une histoire de personnes, hein, parce que on essaye dans la mesure du possible de rencontrer aussi les chefs quand ils sont disponibles, parce que c'est des gens qui ont des grosses journées quand même.
Qui se lèvent tôt.
Mais voilà, qui se lèvent tôt. Donc c'est aussi pour ça, par exemple, que je fais plutôt des parcours soit le matin, soit en début d'après-midi, mais pas en fin de journée. Et oui, c'est une histoire de goût, en fait, et de dégustation. Et quand je trouve que c'est vraiment bon, du coup, j'essaye d'organiser ça. Et après, on se balade pendant 2 heures. On découvre 3 pâtisseries. On marche, entre à peu près 2 kilomètres. Et voilà, on fait des petits stops comme ça où on déguste
tranquillement. On analyse, on commente.
Exactement.
Vos pâtissologues formés maintenant.
Mes apprentis pâtissologues.
Quelle est leur vision a posteriori? maintenant qu'ils savent goûter.
Il y a une surprise et il y a aussi le fait de se mettre un pas en arrière par rapport à la dégustation et à l'acte d'achat. Déjà, le principe, c'est que tout est inclus dans leur visite. Donc, ils vont recevoir quelque chose que j'ai déjà présélectionné. Donc, il y a pas ce dilemme du choix, etc. Donc, ils sont vraiment dans l'attente. Et ils le voient d'une manière un petit peu différente aussi. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, j'ai l'impression que ça leur plaît. En tout cas, les retours sont très positifs par rapport à ça. Et j'essaye aussi de faire découvrir des pâtissiers qui sont moins connus. On a parlé beaucoup de grands chefs. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont besoin de moi, en fait, pour faire découvrir leur spécialité. Donc moi, j'essaye aussi d'aller dans des boulangeries de quartier où je sais que tout va être fait maison et avec beaucoup d'amour, ou des jeunes chefs. Enfin, vraiment, j'essaye de faire découvrir et des nouvelles pâtisseries et aussi des nouveaux artisans.
Et des nouveaux lieux aussi auxquels on ne penserait pas forcément aller spontanément. Je pense à la Goutte d'Or.
Monsieur Mangui, voilà, est installé. Oui, qui a sa pâtisserie qui s'appelle la Goutte d'Or et qui fait des choses incroyable, son flan est absolument à tester, vraiment, c'est très inventif. Et voilà, il y a d'autres boulangers pâtissiers de quartier, pas très loin, toujours à la Goutte d'Or, Square Jules Geoffrin. On a une boulangerie de quartier, là-bas ils y font un travail vraiment formidable, avec de très bons produits, une gamme courte, mais très bien exécutée.
Mais délicieuse.
Voilà, et ça, c'est vrai que les gens sont assez surpris d'arriver dans différents endroits comme ça, en disant, en fait, si on n'avait pas suivi ce parcours, jamais on serait venu par ici. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse. Moi, je me suis lancée à une période parfaite, c'est-à-dire en 2020, pour les activités avec du monde. Donc il n'y avait pas vraiment de touristes, mais c'est vrai que j'ai eu quelques touristes américains. Voilà, le croissant, Montmartre, c'est vraiment la carte postale finalement, même si j'évite en fait les lieux vraiment très touristiques. On fait Montmartre, mais quasiment sans voir le Sacré-Cœur. Donc voilà, et ça commence à... Voilà, les touristes reviennent un petit peu, j'ai de plus en plus de touristes étrangers, mais j'ai eu beaucoup de Parisiens, du coup, qui ont redécouvert leur ville.
L'émission se termine déjà. C'est terrible. Je tiens à préciser cependant que Marion Tillou est une professionnelle, parce qu'elle a goûté tous les gâteaux avec... plaisir.
Exactement. Oui.
D'ailleurs, dans votre livre, on peut trouver plusieurs adresses et tout ça.
Oui, à chaque fois.
Et des recettes, oui. Et des photos. Donc, on est déjà embarqué dans cette aventure-là. Un ingrédient et un ustensile.
Alors, un ingrédient.
S'il en fallait un.
Alors, l'ingrédient, la fève tonka. Voilà, je suis dingue de fève tonka pour ses arômes de cannelle, de vanille. Je trouve que ça marche très bien. Il faut faire attention à la façon dont on la dose. Mais c'est très très bon.
Dit la pâtissière.
Voilà. Un ustensile, alors c'est un ustensile assez conséquent, c'est mon robot pâtissier. Puisque j'aime manger de la pâtisserie, mais j'aime aussi beaucoup en faire.
Et indispensable, ouais. Robot. Enfin, quand on peut avoir un robot, vous recommandez, oui, clairement, c'est ça des bras change
en plus.
Vraiment.
C'est vraiment des bras en plus. Ça permet aussi de faire des choses beaucoup plus facilement et de pas se dégoûter aussi de la pâtisserie quand on voit une liste d'ingrédients et une liste d'étapes à faire. Voilà, le robot, ça aide vraiment bien.
Mais donc, on peut pâtisser sans robot.
Oui, oui, oui. Un fouet, des bras, hein, ça va bien aussi. Hein.
Merci beaucoup, Marion Tillou.
Merci à vous.
Merci infiniment. Honorez-vous-guide.fr.
Tout à fait.
Sur Internet, pour découvrir les parcours gourmands et curieux à Paris.
Les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, Honorez-vous-guide.
Honorez-vous-guide. Voilà. Et bien sûr, ce livre publié chez First, Comment j'ai goûté mon gâteau. Et vous, dans Sucré, les pâtisseries viennent-elles aiguiller vos repas d'anniversaire? Êtes-vous fou de pâtisseries parce qu'il y en a? Lesquelles, racontez-nous sur la page du Goût du Monde ou sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Pensez à vous abonner au podcast pour savourer tout en douceur, parce que vous pouvez comprendre par boucher. Petite bouchée de cette émission. Merci à Cécile Benissi pour la réalisation et la mise en onde et pour les croissants. À vous tous de votre écoute et de votre gourmandise. Rendez-vous samedi prochain, même table, même heure.